bonjour, Frédéric Huttmann au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Suzanne Manoff. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une figure du piano et du travail de la pianiste avec les chanteurs. Alors, vous êtes née aux États-Unis. Et puis alors, comment vous en êtes venu en France à devenir comme ça, autant une incarnation du travail du pianiste, de la pianiste, avec les chanteurs, que ce soit dans le lied allemand, bien sûr, mais aussi beaucoup dans la mélodie française. On ne compte pas tous les disques ou tous les concerts que vous avez donnés à propos de la mélodie française. Mais comment vous en êtes venu à cet amour de la mélodie française, Suzanne Manoff ?
Ben, l'amour de la mélodie française, elle est venue... Peut-être il y a deux choses. Il y a toujours une rencontre humaine et c'est au centre de mon travail avec les autres. C'était la rencontre avec une femme qui s'appelait Gwendolyn Koldowski en Oregon, aux États-Unis et en Californie. Et c'est elle qui m'a encadrée pour la première fois où j'ai vraiment abordé la mélodie et le lead. Et j'ai aimé chez elle... sa sagesse, sa bienveillance, son amour du piano, de la voix et de la littérature. Et pour moi, ça me semblait que c'était un coup de foudre. Je me suis reconnue en elle et peut-être la rencontre a fait que j'ai découvert une partie manquante en moi et où c'est un peu la réponse à la question qu'on n'a pas posée. Je dirais ça comme ça. Et ça a inspiré un désir de venir découvrir plus les langues. Je parlais déjà enfant l'allemand.
Parce que votre mère était d'origine lettonne.
Elle était d'origine lettonne, plutôt balte allemande, mais vivant en Lettonie. Et mon père était allemand. Et tous les deux, ils ont émigré aux États-Unis. Et donc, on parlait allemand à la maison. Dans la petite enfance, c'était que l'allemand. Ensuite, moi, j'ai basculé plus vers l'anglais. Et vivant aux États-Unis, c'était une longue histoire, un apprentissage de réintégrer ma part allemand. Quand je suis venue en Europe, c'était plus facile. En Amérique, grandissant dans les années 60-70, il y avait beaucoup d'a priori, beaucoup de silence autour de la langue d'allemand. On ne voulait pas l'entendre à l'école. À l'école, en tout cas, où j'allais dans ma paroisse, entre guillemets. Mais à l'école de musique, c'était autre chose. Et c'est là que j'étais entourée de tous mes partenaires qui étaient devenus vraiment mes grandes amies de vie, qui, eux, venaient d'une autre culture, en grande partie juif, et qui trouvaient ça absolument fabuleux que je parle allemand. Alors que moi, j'ai essayé, vraiment, c'était le silence en moi, l'allemand. Et à travers la mélodie, à travers Koldowski, ça s'est vraiment réveillé en moi et je me suis rendu compte qu'il y avait comme une partie de moi qui était emprisonnée en moi parce qu'il y avait cet interdit de la langue. Et en le chantant, ben, ça me semblait plus fluide et plus possible de me réunir avec cette part de moi. Ensuite est venu un désir de faire de même avec le français. Donc, c'est ça qui a inspiré un concours que j'ai fait pour avoir de l'argent, en fait, tout simplement, pour venir en Europe et explorer la langue française. Et là, c'était le coup de foudre absolu avec Paris.
Mais oui, mais c'est ça que je trouve extraordinaire, parce que quand on discute avec vous, quand on discute avec Jeff Cohen, qui, comme vous, vient des États-Unis et comme vous, aussi incarne un spécialiste de la mélodie française, je me demande comment quelqu'un qui est comme ça né à l'étranger, dont ce n'est pas la langue maternelle, peut devenir à ce point... spécialisé et connaisseur dans la mélodie, dans la poésie française, parce que ça reste... Maintenant, votre relation au français, vous parlez de la relation à l'allemand, mais votre relation au français, vous parlez un français extraordinaire, mais vous pensez en français, enfin, je veux dire, vous avez intégré cette langue totalement, ou alors vous avez encore des réflexes originaires des États-Unis ?
Oui, moi, je pense que la langue, elle m'a intégré. Quelque chose, c'est la langue, c'est comme c'est un terrain. Je vois ça comme un terrain. C'est la vibration. La vibration qui me parlait beaucoup et ça parle à la curiosité, sa curiosité est vitale pour nous tous. Et moi, j'avais cette curiosité de cet autre terrain qui, pour mes pieds, pour les sensations, était si différent de marcher dans une langue qui n'a pas d'accent tonique et qui a cette espèce de polyphonie tout en couleurs tellement différente, très différente de l'allemand. C'est je sais pas, comme la synesthésie, mais quelque part ça, il y a quelque chose qui se rapproche de ça, je pense, que pour le cerveau. Donc c'était pas une envie de l'apprendre intellectuellement, la langue, mais c'était une envie de chanter en moi cette langue, de la voir qui m'habite, qui se tourne en moi, et que découvrir un autre aspect de moi-même à travers les sons de cette langue. Et du coup, les poésies étaient en mouvement. C'est les poésies, ce sont des couleurs, c'est comprendre comment fonctionne une phrase. Il y a à la fois le cerveau, l'aspect cartésien, mais il y a aussi l'enfant qui se met à jouer avec des formes, comme avec des ballons ou avec des cubes, et avec des pastels, avec des huiles. Et c'était d'autres médiums d'un coup pour mes pinceaux. Et c'est venu comme ça. Je pense que c'est la curiosité, la passion et un besoin. Sentir, c'est comme un animal qui va renifler sur un chemin et il suit la trace et il sent que voilà, l'os est là-bas, il faut aller le chercher. Pour moi, la langue, elle était comme ça.
Alors, Suzanne Manoff, moi, je vous ai entendu jouer en concert avec des chanteurs, multiples reprises. Je ne vous ai jamais écouté jouer seul. Vous travaillez seul? Est-ce que vous avez le temps? Parce que vous travaillez tellement avec des chanteurs, vous enseignez, vous donnez des masterclass, vous donnez des concerts, vous enregistrez des disques. Tout ça avec des chanteurs. Moi, je vous ai jamais entendu jouer seul. Comment vous faites le matin quand vous réveillez? Vous allez seul au clavier en travaillant un répertoire seul, ou alors un répertoire destiné à des chanteurs?
Non, je dirais que c'est un mélange. Tous les jours, le besoin est différent. Je n'ai plus la même discipline, je dirais, que j'avais quand j'avais 18, 19, 20 ans, où voilà, je me levais, j'allais courir, je prenais un café et je me mettais au piano pendant 5 heures.
Et vous travaillez quel répertoire à ce moment-là?
À ce moment-là, c'était beaucoup de Bach, beaucoup de Mozart, beaucoup de Beethoven, les 3B, les 3B et Mozart, et Brahms, voilà, et exactement, et du Prokofiev, du Debussy, le Debussy, bon, Debussy toujours, Ravel, Chopin, et c'était Schumann, Schubert, mais beaucoup les 3B, parce que c'était musique qui, la relation à ma vie à l'époque, je pense que la musique, elle est en adéquation avec les besoins qu'on a dans la vie quelque part. C'était un besoin de comprendre la géométrie, l'ordre des choses, et que dans ce qui est la peinture colorée, pour moi, c'était bien, mais à l'époque, c'était pas le besoin que j'avais. J'avais besoin de construire, comprendre la tonalité, les couleurs des sons. Et j'étais très attirée aussi, toujours, par la mathématique de la musique. Comment tourne, comme dit Brendel, how sounds and phrases spin. C'est comment tourne la phrase et la correspondance entre les chiffres. J'adore ça. Et donc, c'était à l'époque que c'était comme ça. Mais évidemment, de tout ça, reste, il y a comme des reliques, des choses qu'on emporte un peu, ou qui restent en nous, qui chantent toujours en nous. Des pièces comme l'Opus 118 et l'Opus 119 de Brahms, l'Opus 109 de Beethoven. Entre-temps, j'ai joué beaucoup dans les petits concerts par-ci, par-là, la bémol, Haydn, des concerts construits autour de la fa mineure avec la première sonate de Beethoven et la passionata, et la sonate en la bémol majeure de Haydn, pour avoir rester dans un monde harmonique, mais avec des discours et des problématiques à sortir d'eux, des compositeurs à différentes époques de leur vie, notamment avec la passionata de Beethoven. Et une pièce pendant laquelle, d'ailleurs, je suis devenue à moitié sourde en la travaillant. C'est vraiment très inquiétant.
Mais quoi, vraiment, au sens physique du terme?
Oui.
Mais quoi, c'est... en travaillant le dernier mouvement, notamment?
Mais c'était en travaillant cette pièce, petit à petit, je me suis posé la question si je devenais un peu folle. Parce que moi, je suis convaincue que la musique notée, elle transmet tout de l'être qui l'entend. Et donc, du coup, quelque part, il y a comme l'ADN qui est dans les sons. Et donc, je me suis dit, s'il a pu l'écrire comme ça, je devrais pouvoir la jouer comme ça. Et j'étais évidemment voir mon médecin et j'ai dit, est-ce qu'il y a un problème? Voilà, il a vérifié tout. Il m'a dit, il n'y a aucune inflammation. Problème. J'ai joué le récital et en sortant de scène, j'ai récupéré. Ah oui. J'entendais très bien.
Oui, c'est quand même un peu impressionnant comme histoire, d'autant que vous jouiez un compositeur qui lui-même était sourd.
Oui.
C'était quand même incroyable comme phénomène.
Mais je suis persuadée de ça et je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi dans la langue et dans la poésie. C'est là, pendant le Covid, j'essayais d'apprendre le balcon de Baudelaire. Et c'était parfois dans les nuits d'insomnie le remède vraiment que je me suis prescrite. Et ça m'obsédait énormément et je me suis interdit de jouer le Debussy parce que je me suis dit le Debussy parce que j'avais déchiffré au début
la mélodie de Debussy ce poème de Baudelaire.
Exactement. Et je me suis dit la première mélodie quand on se met à jouer, on se dit ok, ça c'est beau, ça va là, etc. Mais on comprend pas vraiment parce que c'est que ça continue, c'est comme un discours qui n'a pas de ponctuation où on la comprend pas, où on n'a pas compris le sujet, le verbe ou le sujet tout court. Et puis du coup, et cherchant, et passant l'étape de vraiment essayer d'apprendre ce poème et de l'apprendre et le comprendre et vivre avec, un jour, je sais pas, c'était 4 heures du matin, je me suis dit c'est le jour, je me permets de me mettre au piano. Et donc j'étais au piano au milieu de la nuit. Et ma main, elle a trouvé, j'y crois à fond, c'est que même Koldovsky disait toujours, quand tu connais, quand tu vis dans le poème, quand tu le connais, ta main trouvera toujours le chemin. Ouais. Et je pense que quasiment tout est là. Et donc, du coup, on est un peu schizophrène quand même, parce qu'il y a le poète et il y a le compositeur. Et c'est ça que j'aime. C'est comme il y a le moi et toi, le moi et chanteur, et chanteur et moi. Et on est 4, en fait. Et on est 5 avec le public. Et c'est voilà.
Mais ce que je trouve incroyable, Suzanne Manoff, c'est quand on voit des pianistes de votre niveau qui travaillent tellement avec des chanteurs, qui ont un tel répertoire, une telle connaissance du répertoire. On vous voit parfois avec des chanteurs, on a l'impression que justement vous avez une compréhension, je ne citerai pas de nom hein, de chanteur, mais que vous avez une compréhension et une connaissance du poème qui est supérieure à celle du chanteur. Et vous avez tellement travaillé ce répertoire qu'on a l'impression que pour vous, c'est ancré en vous. Mais peut-être que je m'égare.
Mais je sais, vous avez l'impression que...
Parfois, on a l'impression qu'on voit certains pianistes de votre niveau, ou quand on voit Jeff Cohen ou d'autres, vous avez une telle connaissance de ce répertoire, de la poésie, de la mélodie, que c'est presque parfois supérieur à la connaissance que peut en avoir le chanteur. Ça vous arrive ou c'est une idée que nous, on se fait
Ça me donne envie de vous interviewer.
Ce sera beaucoup moins intéressant.
Qu'est-ce qui donne cette impression qu'un pianiste connaît mieux?
Non, je pense des pianistes comme vous qui avaient tellement travaillé ce répertoire, qu'il avait tellement approfondi, qui en avait une telle connaissance, parce que vous le faites par amour pour la poésie, par amour pour le, parce que vous pourriez jouer seul. Un chanteur, bon, il doit jouer avec un pianiste, ou en principe chanter avec un autre instrumentiste, parce que le répertoire a cappella, pour chanteur seul, ça ne peut pas durer quand même 2 heures pour un concert, à ma connaissance. Mais vous, c'est une telle passion que parfois, mais peut-être qu'encore une fois je m'égare, j'ai l'impression que vous possédez encore mieux ce répertoire.
J'entends bien. Je ne sais pas si je connais mieux que mes partenaires. En tout cas, pour moi, l'exigence que j'ai, c'est d'être à fond dedans à chaque fois. Et je peux dire que dans le métier, il y a des gens qui font tellement de choses. Ils ont tellement la boulimie du nombre de concerts ou d'apparitions ou d'être là et là et là et là et là. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Moi, j'ai jamais eu besoin de ça. Ça me faisait même peur. Et j'ai besoin d'être tranquille en moi et de sentir que j'ai traversé le chemin de chaque pièce avec une sorte... C'est, à la fois, c'est, je n'ai pas de choix personnellement et c'est un mélange de cela et un devoir perso. Et sinon, je ne peux pas le jouer. J'ai l'impression d'être une imposteuse. Donc, il y a de ça. Mais il y a aussi, il est vrai que, et ça, c'est une autre conversation, peut-être pour une autre fois, que le fait de chanter impose une rigueur de vie, parfois, qui demande à un chanteur sur scène d'être extrêmement vigilant ou vigilante sur le son
oui,
lui-même.
Juste le physique,
Et parfois, le poème devient juste un véhicule de syllabes pour dire. Il y a des chanteurs qui sont des chanteurs à ambiance et qui font des concerts sublimes parce qu'on est juste enroulé dans un timbre et on a juste envie de se coucher sur un velours quelque part et laisser couler sur nous. Et ça nous suffit. Le poème est là, mais on n'est pas en train de s'arrêter pour regarder, sentir la fleur au bord de la route. Il y a d'autres chanteurs qui n'ont pas cette magie du son, mais qui ont la magie du mot. Où on se dit, et puis les critiques vont dire, ah oui, on a absolument compris, chaque oui, c'est mot, c'est extraordinaire, comme si c'était le critère premier, et peut-être ça l'est pour certaines personnes. Parfois, on a les deux, mais c'est assez rare. Et moi, j'ai connu des chanteurs, je peux citer des gens comme autrefois, mais tout début en France, j'ai rencontré Sylvie Brunet. Sylvie Brunet, elle chantait trois notes, et j'étais subjuguée, j'avais des... Tous les poils se redresser et vraiment et j'étais amoureuse, ça a réveillé une espèce de passion en moi et j'essayais de la retenir, la contrôler. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ça, mais c'est très difficile à définir en quelques mots, mais c'est pas pour elle, c'est que le son m'a rendue amoureuse, où j'ai découvert l'amoureuse en moi. Oui.
Non,
et le son est comme ça. Donc parfois, c'est vrai que moi, je ne peux pas jouer sans comprendre le texte. Parce que souvent, si on fait pom 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 pom, on peut faire bébé, 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 ou on peut faire mille choses. Imaginez des instruments tellement différents. Mais là, c'est sans le texte, on ne sait pas dans quel eau on patauge.
Alors, moi j'ai choisi deux disques récents de vous parce qu'ils incarnent pour moi, Suzanne Manoff, votre itinéraire. Il y en a un que vous avez enregistré plusieurs disques avec Sandrine Piau. Le dernier que vous avez enregistré, Chimère, est un répertoire comme les autres, hein, mais absolument sublime, qui débute par un lead de Carl Leu, que je trouvais extraordinaire. Bon, après, on voyage chez Schumann, et puis même Poulenc et d'autres. Et puis il y a ce disque avec Adèle Charvet.
Oui.
Long Time Ago. Alors, on a d'une part Sandrine Piau qui incarne une chanteuse d'expérience, et puis Adèle Charvet qui débute sa carrière brillamment, mais qui est une formidable chanteuse. Mais vous n'avez pas la même relation. Il y en a une avec laquelle vous avez un dialogue depuis un certain nombre d'années, l'autre qui est un talent déjà énorme mais naissant. Et vous avez les mêmes rapports quand vous travaillez les œuvres avec l'une ou avec l'autre. Parce que quand une Adèle Charvet, par exemple, joue avec vous, avec toute l'expérience que vous avez, elle vient chercher quelqu'un qui joue avec elle, mais en même temps une certaine expérience des mélodies choisies aussi, j'imagine.
C'est les rencontres sont... Chaque rencontre est unique. Avec Sandrine, au moment où on a enregistré ce disque-là, on se connaissait déjà depuis plus de 25 ans, je pense, ou 25 ans. Et donc la rencontre, elle s'est faite déjà il y a un bout de temps. On avait du chemin ensemble. On a construit dans les trois grands disques qu'on a enregistrés ensemble des moments d'arrêt sur nos préoccupations ou nos rêves du moment. Et donc les disques se sont faits comme ça ensemble, les disques avec Sandrine, dans à la fois évidemment un respect de musique qui serait pour sa voix, mais parfois on est allé comme dans le temps des Lilas, des pièces qui étaient plutôt graves pour sa voix et où elle disait ben jamais je chanterai ça sur scène, et en fait ça se passait sublimement bien sur scène. Et mais c'était des préoccupations avec des mondes du dire, des choses, évocations. C'était tout ce qui évoque mais qui n'est jamais vraiment précisé ou dit.
Ça, c'est un des traits de la mélodie française aussi.
Ben oui, c'est quelque part le propre de la langue aussi, par moments, je trouve. Mais de la mélodie française, certainement. Et du coup, c'est très différent. C'est intéressant que vous ayez choisi ces deux disques. Parce qu'avec Adèle Charvet, je suis prof au conservatoire.
Rappelez aux auditeurs, vous êtes prof, vous enseignez en fait aux chanteurs.
J'enseigne aux chanteurs qui sont dans le programme du master au CNSM de Paris.
Donc vous leur apprenez la mélodie, la manière de chanter la mélodie.
Je travaille tout avec eux. L'opéra aussi. Principalement, ils apportent du répertoire pour les grands concours, que ce soit mélodie ou opéra. Pour certains, c'est un travail d'approfondissement du répertoire d'audition pour les aider à vraiment convaincre les agents. Parfois, c'est des choses de dernière minute pour des auditions à faire en sorte qu'une pièce brille un peu plus, ou ils disent « est-ce que je dois le faire comme ça, comme ça ?» C'est évidemment un travail sur la musique, sur le phrasé, sur les langues, sur l'expression. Et aussi un travail sur parfois si on peut pas appeler ça peut-être pas travailler, mais une exploration de comment être le plus confortable et se débarrasser dans les auditions et aussi dans les premiers grands spectacles, se débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire sur scène. Et je pense que ce qui me fascine dans cet enseignement-là, c'est le fait d'être moi-même beaucoup sur scène et de comprendre ce que c'est de traverser ce seuil de la porte entre l'arrière-scène et devant la scène. Parce que c'est vraiment un choix. C'est un choix parfois plus difficile que pensent les gens. La porte s'ouvre, il y a des fois où on n'a vraiment pas envie d'y aller. Mais c'est un choix. Et une fois qu'on y va, on se rend compte qu'on se retourne plus. Oui. Et c'est très particulier comme expérience. Mais donc ça, c'est intéressant de partager certains aspects de cette présence avec eux. Mais avec Adèle, ce qui s'est passé, c'est que je l'admirais de loin. J'écoutais un peu ce qu'elle faisait. Elle devait rentrer dans ma classe, mais la vie a fait qu'elle était engagée par Covent Garden.
Parce qu'elle a une origine anglaise, je crois aussi.
C'était pas seulement ça. C'est que elle était engagée pour chanter un rôle dans un opéra, donc elle a quitté le conservatoire. Mais j'ai appris donc exactement qu'elle a passé du temps au début de sa vie à New York. Et depuis longtemps, je rêvais parce qu'aucun de mes partenaires était vraiment de langue anglaise et surtout de langue américaine. Et comme elle avait ça, du coup, je lui ai dit « Viens chez moi, est-ce que tu as envie de lire un peu les choses ?» Donc, elle est venue, on a déchiffré pendant des heures, et je lui ai dit « Est-ce que tu veux faire un disque avec moi ?» Et du coup, moi, j'ai comme un stock. J'ai un jardin secret chez moi, des paniers remplis de pièces que je voudrais faire un jour avec quelqu'un. Et quand je rencontre la personne, où je me dis « C'est l'instinct qui dit « C'est avec cette personne-là ».
Ah oui, c'est un
du coup, ça s'est fait comme ça.
Bah oui, c'est un répertoire incroyable, que des œuvres sublimes, mais qui ne courent pas les salles de concert parisiennes. Il y a du Copland, du Vaughan Williams, de Britten. Bon, Britten est quand même plus joué, mais Charles Ives et d'autres compositeurs moins connus. Enfin, c'est quand même incroyable, cet itinéraire que vous avez tracé avec elle.
Oui, et puis c'était donc au début... il s'est passé par plein d'étapes. Mais finalement, quand on commençait à distiller l'essentiel, on s'est rendu compte qu'on avait envie de cette roue, ce qui est comme une roue du temps et qui est comme une roue aussi des points cardinaux, un peu dans le sens des Amérindiens. Et quelque chose qui était très important pour moi, que l'idée de la naissance dans l'Est, donc tout ce qui parle du début de vie, tout ce qui ensuite parle du Sud, qui est le midi de la vie, la passion, plein d'autres choses. L'Ouest, un moment d'illusion, désillusion, la mort, et le Nord étant blanc et la renaissance ou la guérison. Et on peut facilement trouver énormément de mélodies, et que ce soit français, les mélodies françaises, le Lied, das deutsche Lied, ou le English Art Song, qui tombent dans ces catégories-là. Mais j'avais vraiment envie que ça passe par la langue anglaise et américaine. Et du coup, on a trouvé cette trame. Il y a des mélodies qui sont des grands éclats d'amour, de folie, comme Animal Passion, de Jake Heggie. Le disque, il est sublime. Et la seule chose que j'ai vraiment envie de dire, puisqu'il y a l'antenne, c'est que c'est un disque qu'on a trop peu fait en concert et que j'aimerais vraiment, vraiment continuer à jouer pour le public, parce que c'est un disque à la fois de musique moins connue, mais de musique qui est quelque part tout le temps à la frontière entre musique classique, musique populaire, musique moderne.
Et même, il y a certains Britons qui sont aussi proches de la musique populaire.
Ah ben, tout à fait. Et même les Aaron Copland, qui a écrit le American Folk Songs, ça dépend comment on les fait. C'est un chant populaire, totalement populaire. Mais il y a la trame toujours de la langue. Et Adele, elle est extraordinaire parce qu'elle a ça dans le sang. Les Américains, peut-être encore plus que les Anglais, mais il y a quelque chose. En Amérique, le son n'est pas séparé du corps. On bouge. Nous, on a grandi en apprenant la musique avec le mouvement. Moi, je ne peux pas travailler sans bouger. Et quelque part, même à travers les années, parfois, on m'a dit, mais tu es trop enthousiaste ou tu es trop ceci, trop cela. Et plus jeune, je me disais, en fait, je suis trop ici. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ayant essayé d'être autre chose que je suis, que ce n'était pas très sain pour moi. Donc, j'ai abandonné tout ça.
Oui, mais on vous préfère tel que vous êtes, Philippe Manoff. Si vous vous retrouvez tel que vous êtes, vos prochains concerts à Paris, c'est le 31 mars prochain, aux côtés aussi d'une merveilleuse chanteuse, Patricia Petitbon.
Oui.
Et le 2 avril, une autre merveilleuse chanteuse, Gaëlle Arquez.
Oui.
Donc, deux récitals à la Sainte-Chapelle. Mais Gaëlle, Patricia Petitbon, on connaît notamment le disque avec elle, et puis on la connaît comme chanteuse à la fois d'opéra et de mélodie. Gaëlle Arquez, qui est une immense chanteuse, on la connaît plus à l'opéra. C'est elle qui vous a demandé de travailler de la mélodie
Oui, c'est elle. Et puis, je l'ai suivie aussi quand elle était au conservatoire, parce que c'est quelqu'un d'assez jeune et qui a déjà fait un parcours très important dans l'opéra. Moi, je l'admire énormément. Il y a toujours, je trouve que la rencontre avec des chanteurs, l'envie de faire ensemble, c'est à la fois, souvent ce sont les chanteurs qui viennent vers nous, les pianistes, pas toujours. Et parfois, c'est les deux, finalement, qui se trouvent ensemble parce qu'il y a comme une envie de s'approcher. On n'ose pas. Et puis, on a une qui fait le premier pas. Oui, c'est la curiosité. J'ai besoin d'être curieuse et en quête de contact. Et ça, c'est quelque chose qui se crée avec Gaëlle. Et puis, on est en train d'explorer vraiment, je dirais, c'est notre premier chapitre ensemble de répertoire. Le 2 avril, on fera un répertoire principalement espagnol et français. Beaucoup de musique française.
Pas d'air d'opéra.
Non. Mais il y a des mélodies de Saint-Saëns, de Massenet, Donc qui ressemblent un peu, qui sont
compositeurs
qui
ont...
Exactement.
Vous parlez d'Espagne, quoi. Il y a du Albéniz ou des compositeurs.
Il y a du Rodrigo, il y a du Lara avec Granada, Adela, des choses comme ça. Il y a aussi la musique de l'Amérique du Sud. Et donc la musique qui danse, Gaël, c'est quelqu'un pour lequel la danse est très très importante. Elle est très très bonne danseuse.
Nous, on la connaît latine. Comme des grandes Carmen d'aujourd'hui.
Ben oui, l'art. Et c'est pas c'est la danse qu'elle peut faire dans Carmen, c'est pas que pour l'opéra. Elle est danseuse en dehors, vraiment. Et ouais, c'est quelqu'un que j'admire énormément. J'adore sa voix. Et j'ai hâte de faire ce chemin avec elle.
On a hâte de l'écouter. Et le 8 juin, on vous retrouve au musée d'Orsay. C'est un lieu que vous connaissez, l'auditorium du musée d'Orsay. Vous avez écouté souvent Suzanne Manoff. Vous y serez aux côtés de Patricia Petitbon. Alors ça, c'est une de vos fétiches, la voix humaine de Poulenc.
Oui, c'est déjà le musée d'Orsay, c'est un endroit, j'ai l'impression que c'est un peu ma deuxième maison. Je suis... rempli de gratitude par rapport à Sandra Bernard qui dirige cet auditorium maintenant. Et en plus, on est extrêmement lié avec le musée d'Orsay par l'Académie Orsay Royaumont, dont je m'occupe aussi et j'enseigne pour cette académie avec Véronique Jans depuis le tout début de l'académie. Donc les liens sont tissés depuis longtemps fortement et je passe beaucoup de temps au musée à visiter absolument tout ce qu'il y a dedans. Et donc le 8 juin, c'est avec Patricia Petitbon qu'on fera la voix humaine Cocteau Poulenc. Dans la version qu'il a écrite pour piano et chant, et avec une première partie musicale qu'on a inventée pour arriver jusqu'au...
À cette femme désespérée au téléphone.
Au téléphone.
Mais justement, cette femme... Moi, la voix humaine, c'est une œuvre pour laquelle j'ai éprouvé une passion incroyable, mais j'ai toujours pas compris cette œuvre. Enfin, j'ai toujours pas compris à qui elle s'adresse, si elle s'adresse vraiment à quelqu'un, si c'est un amant qui l'a délaissé, si c'est une grande bourgeoise. Si c'est... Enfin... Il y a tellement d'incarnations possibles de cette voix humaine qu'on n'en fait jamais le tour, Suzanne Manoff. Je ne sais pas, vous, comment vous la voyez, cette femme
Je pense qu'on ne fera jamais le tour. Et je pense qu'il y a une possibilité qu'elle soit à chaque fois différente. Dans notre expérience avec Patricia, je ne vais pas parler pour Patricia. Il y a plusieurs choses que je peux dire. Je trouve qu'apprendre la voix humaine est un poids dans la vie.
C'est, pour le pianiste et pour le chanteur,
oui, pour
ou
les
plus
deux.
Pour l'un
déjà
pour...
le texte, oui. D'apprendre le texte, parce que moi, il y a pas, au piano, on fait vite le tour de ce qu'il y a à jouer, c'est pas toujours commode.
C'est quand même très difficile,
parce
Poulenc
que c'est,
au piano.
Ben, cette pièce-là, sa difficulté n'est pas dans la difficulté purement pianistique, technique. C'est dans la conception et le timing des choses. Parce qu'il faut être tellement imbriqué dans la trame théâtrale que du coup, ça coule de la main. Mais c'est d'ailleurs pour tout, c'est comme ça. Donc du coup, on se pose la question, qui suis-je au piano quand je joue ça avec ma partenaire? Et quel est mon rôle là-dedans? Donc évidemment, en moi, j'ai un imaginaire assez vif. Et donc j'imagine plein de choses. À certains moments, je suis Marthe, la copine qui n'est pas là sur scène, mais qui quelque part est là, où je peux être d'autres personnages. Mais pour répondre à la question sur à qui elle parle, moi je suis pas certaine tout le temps qu'elle parle à quelqu'un. Pour moi, c'est parler à cette autre personne aussi qui est en nous. Et quelque part, j'avoue que par moments, je suis passée par les seules solutions que je pouvais trouver pour rester accrochée à la pièce, pour aller plus loin. Parce que parfois, il faut toquer longtemps à la porte avant de pouvoir vraiment accoucher. C'est d'imaginer qu'elle avait tué elle. Et quelque part, c'est un peu violent de dire ça, mais quelque part, peu importe, parce que l'histoire du pistolet et tout ça, et que non, qu'elle se suicide, etc. Et même si elle se suicide, est-ce que tout ça, c'est vraiment la réalité? Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que le rêve? Et qu'est-ce que la folie?
Mais cette voix humaine, Suzanne Manoff, vous vous souvenez avec combien de chanteuses vous l'avez travaillée? Ou alors, vous l'avez fait tellement de fois que vous avez travaillé avec les plus grandes. Et c'est une œuvre que vous avez beaucoup interprétée.
Non, en fait, c'est ça qui est...
Pour moi, je pensais que...
Non, la voix humaine, je l'ai traversée ou regardée avec des chanteuses différentes à travers toutes ces années. Mais c'est la première fois que je la joue sur scène. On a fait une première fois au Luxembourg avec Patricia en décembre. Pour ça que c'est génial, parce qu'on se rend compte... Moi, je pense aussi que... Bon, il y a la Dame de Monte-Carlo... qui est comme une mini pièce un peu similaire.
Souvent, les chanteuses mettent ensemble dans le même.
Oui, je trouve que ça, c'est un peu trop proche. C'est un peu comme si. Je ne suis pas sûre que les deux se font du bien. Elle, de la voix humaine, et la Dame de Monte-Carlo. C'est. Quelque part, pour le piano, la partie du piano est mieux écrite dans La Dame de Monte-Carlo. C'est plus facile à jouer parce que c'est en continu. On reste dans l'eau à nager ensemble. Dans la voix humaine, il y a tous ces silences où il y a tout le temps la question de qu'est-ce que je fais là? Et vu le contexte et le texte, on se dit, mais est-ce que je dérange là? De trouver sa place, une place juste, d'être à l'écoute, mais d'être aussi... vraiment une partie centrale de la trame, c'est je trouve que bon, peu importe si je l'ai pas fait avant, c'est venu à moi maintenant un moment peut-être où j'étais prête à y aller.
On va vous retrouver dans une autre œuvre de Poulenc le 29 avril prochain dans un festival à Aix-les-Bains.
Oui.
Là ce sera l'histoire de Baba.
Oui.
Donc vous le ferez avec une grande actrice qui est Fanny Cottençon.
Oui.
Là, c'est très différent puisque c'est pas une chanteuse, c'est un texte qui est dit et avec le piano qui s'intercale dans le texte. Et en plus, vous l'avez complété par d'autres œuvres, cette histoire de Baba.
Ben, pas dans le passé, je l'ai complété avec d'autres œuvres. Cette fois-ci, avec Fanny Cottençon, que je l'ai pas encore rencontrée. On se rencontre à la fin de cette semaine. Pour la première fois, je suis très curieuse et contente de cette rencontre. Là, on fait Baba vraiment comme c'est écrit. Pour moi, Babar, c'est le chef-d'œuvre. Je le joue depuis très longtemps. Je l'ai joué avec les gens très différents. J'ai rêvé moi-même de le faire toute seule.
De dire le texte, vous, en jouant au piano?
Oui, de trouver une façon de le dire ou de le dire. Je suis pas convaincue encore parce que c'est un peu comme les gens qui écrivent. Récemment, j'ai lu un livre incroyable et j'étais cherchée sur internet et j'écoutais la femme qui l'a écrit, qui récitait le tout début du bouquin, et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce ton là que j'imaginais. Et j'étais perturbée parce que ça me changeait mon expérience du livre. Donc est-ce que c'est une Suzanne au piano qui parle ce texte? Je ne sais pas. Peut-être des parties du texte. En tout cas, le texte, il est toujours comme avec les chanteurs. Moi, j'ai toujours le texte en moi. Donc, les chanteuses, parfois, elles cherchent ou un chanteur cherche son mot. Mais on est là, c'est immédiat. On peut le donner parce que ce n'est pas parce qu'on est en train de lire dans la partition, c'est parce que c'est en nous. Et Babar, tout le texte est là, sinon je ne peux pas jouer les pièces. J'adore Babar pour plein de choses. Je trouve que il y a une innocence, mais il y a aussi quelque chose que de très comment dire ça, très rudimentaire de ce qu'est l'enfance et la perte. De parents,
mère.
Le chasseur, la vieille dame, les habits qui trouve que c'est très beau, il en veut, il veut une voiture, on lui donne tout ce qu'il veut. Mais il y a ce côté un peu, ben voilà, c'est comme ça, c'est pas le petit éléphant gâté, mais il y a un côté comme ça, et en même temps, c'est toujours avec une distance, avec parfois de l'ironie, et qui côtoie en même temps l'innocence et une sorte de naïveté. Et c'est certainement l'enfant en moi qui se réjouit de tout ça, à être uni avec l'adulte qui a vu plein de choses dans ma vie. Et du coup, c'est très dansant, c'est très... c'est comme une peinture pour moi, Babar, et en même temps j'ai l'impression de jouer dans mon bac à sable quand j'étais enfant. Donc quand il creuse, je comprends ça, ce que c'est de creuser. Et il y a le moment qui me touche profondément toujours, c'est cette musique grandiose quand il est couronné, et c'est quand il devient roi. Et à la fois, un peu comme dans la voix humaine, pourquoi, c'est lui qui devient roi et d'un coup, ça domine absolument tout. Et il y a, c'est joyeux, c'est grandiose, c'est illuminé. Et en même temps, moi, je sens toujours le chasseur et la mort de la mère derrière, et que c'est le royaume des animaux, c'est le cours des choses. Et...
Oui, oui. Et puis il y a chez Poulenc toujours, je sais pas, qui donne cette image tellement un peu Paris, années 20, années 30, et de l'humour, etc. Mais en fait, c'est, quand on regarde la musique de Poulenc, c'est souvent très grave. Je parle même pas des dialogues des Carmélites, mais Babar, il y a de la tragédie, la voix humaine, n'en parlons pas. Et sous cette fausse désinvolture, soit du côté de Cocteau ou Poulenc, c'est quand même la gravité.
Oui, ouais. Complètement. Il y a des moments titi parisiens, et puis le musical qui est constamment présent, mais il y a toujours aussi le regard. C'est comme dans les deux pièces C et le deuxième pièce où on voit des marquises sur les bicyclettes que Poulenc a mis en musique. C'est comme c'est... Et du coup, on a l'impression, le public fait souvent à la fin, mais c'est une pièce terrible. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ça me fait penser à, il y a longtemps, j'ai fait, pas si longtemps, mais un certain temps, des pièces avec Hélène Delaveau dans un spectacle qui s'appelait L'Absinthe. Et puis, il y avait une pièce qui s'appelait comment ça s'appelle, ce qu'on mettait en bocal, les fœtus. Et les premières lignes, c'est très un peu de style ancien dans la cour, c'est très poli. Et d'un coup, tout le monde clank, ça fait clank et c'est trink avec le verre. Et puis en fait, c'est le bruit des fœtus dans leur bocal.
Ah oui.
Donc, c'est à la fois, on se dit, ah, c'est joli, c'est élégant, et en fait, c'est atroce. Poulenc, c'est souvent ça aussi.
Suzanne Manoff, on pourrait continuer des heures avec vous. J'espère que j'aurai le plaisir de vous recevoir à nouveau et d'évoquer encore bien d'autres choses, parce que le champ des possibles avec vous est considérable. On a déjà évoqué un certain nombre de choses. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
Merci.